sont en train d'écrire, disent-ils, va changer le monde. Le monde, leur ai-je demandé. Le monde entier. Oh oui, le monde entier, dit-il. Ils croient que je ne vois pas la nature complexe de leur désir. Mais rien ne m'échappe désormais, hormis le sommeil. Le sommeil m'échappe. Il y a ici une chaise qui n'a jamais servi. Elle appartient à l'espace vide que remplissait autrefois l'amour. Elle appartient à la mémoire. Elle appartient à un homme qui ne reviendra pas, dont le corps est poussière, mais qui avait une place et une puissance dans le monde. Cet homme ne reviendra pas. La chaise vide est pour lui, car il ne reviendra pas. Je ne garde pour lui ni eau ni nourriture. Je laisse la chaise vide.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Une femme s'active dans sa maison. Elle lave du linge, range des chaises, verse de l'eau dans une cruche et sans suspendre ses gestes familiers, elle monologue. Tantôt dans la remémoration douce, parfois ironique, tantôt dans les éclats d'une souffrance qui fouille ses entrailles, elle nous raconte sa vie d'avant, lorsque son fils était vivant, lorsqu'elle était libre de ses mouvements et sûre de sa mémoire, lorsqu'elle habitait encore dans sa maison à Nazareth. Elle s'appelle Marie et il y a des années de cela, elle a été obligée d'assister à la crucifixion d'un fils bien-aimé, adolescent rêveur et tendre qu'elle avait vu se transformer à sa grande stupeur en un prédicateur hautain et pontifiant. Aujourd'hui, vieillissante, elle se voit retenue à Éphèse, loin de chez elle, par les disciples de son fils, ses gardiens, dit-elle, qui veulent qu'elle apporte sa caution à l'histoire qu'ils sont en train d'écrire et dont elle refuse d'entériner le sens. Avouons-le, en incroyant que nous sommes, on s'était approché du théâtre de l'Odéon où se joue le testament de Marie de Colm Teubin, mis en scène par Deborah Warner, avec une certaine appréhension. Et puis, on en est ressorti une heure et demie plus tard avec le sentiment d'avoir été nourri, remué, bousculé par un texte inattendu et surtout par une magnifique actrice grâce à laquelle le verbe se fait chair. Sous la plume de l'écrivain irlandais élevé dans le catholicisme le plus strict, Marie se dépouille de ses oripeaux d'icônes vénérables et lointaines pour s'incarner en une femme obstinée, courageuse, en quête de sa vérité. Rien de provoquant ni vraiment de blasphématoire, même si les thèses du concile d'Éphèse sur la maternité divine de Marie, décrétée en 431, sont légèrement écornées, tout comme la théorie de l'Immaculée Conception, inventée à Rome après de longues réflexions en 1854. Dominique Blanc fait corps avec ces mots et elle nous tient en haleine jusqu'à son dernier cri. Elle est aujourd'hui l'invitée de l'humeur vagabonde. Thank you.
What was it like for her? Where was she? What would she have said had she spoken? Interested me much more than the mild figure we have in the painting.
Comment était-ce pour elle? Où était-elle? Qu'aurait-elle dit? Comment aurait-elle parlé? Ces questions m'intéressaient bien plus que la figure douce ou implorante transmise par les tableaux. J'ai commencé à m'intéresser à l'idée d'un traumatisme irrésolu, jamais allégé, adouci, qui n'aurait pas été transformé en foi, en croyance, en acceptation. Un trauma qui est resté en elle et est sorti sous la forme d'une voix tendue, intense, difficile, impitoyable, continue, qui ne lâche rien. C'était vraiment une langue incessante.
Bonjour Dominique Blanc.
Bonjour.
On vient d'entendre la voix de Colm Tóibín, l'auteur de ce Testament de Marie que vous interprétez en ce moment au théâtre de l'Odéon. Vous connaissiez l'écrivain, le romancier Colm Tóibín. Comment est-ce que ce texte si particulier, qui au départ n'était pas destiné au théâtre, puis qu'il est devenu, comment est-ce que ce texte est arrivé jusqu'à vous?
Alors, lors d'une rencontre avec Deborah Warner, avec lequel j'avais travaillé...
il y a 20 ans déjà, voilà. En maison de poupée, même Odéon.
Voilà, au même Odéon. Et je suis allée voir un opéra qu'elle avait mis en scène au Barbican à Londres, qui était assez extraordinaire, qui s'appelait Between Worlds, et qui racontait le 11 septembre à l'intérieur d'une des deux tours jumelles. C'était un opéra contemporain magnifique. Et on a discuté beaucoup, et à ce moment-là, elle mettait en scène le Testament de Marie avec Fiona Shaw. Et elle m'a dit, écoute, ça m'intéresserait de le faire en France avec toi, et puis éventuellement ensuite de tourner dans des pays évidemment plutôt catholiques et plutôt chrétiens, pour voir un peu l'écho et la résonance que pourrait avoir un texte pareil. Donc on s'est engagé dans cette folle aventure.
Alors effectivement, Deborah Warner l'a d'abord montée à Broadway avec Fiona Shaw, c'était en 2013, puis en 2014 à Londres. C'est pas facile pour une actrice, mais je sais que vous aimez les défis. C'est un monologue, vous avez pas vu seule en scène depuis La douleur, avec la mise en scène de Chéreau qui vous a tenu, et vraiment tenu, c'est le mot, pendant de longues années. Revenir comme ça toute seule, alors que maintenant vous faites partie d'une troupe, celle de la Comédie française. J'imagine que pour vous, ça a été tentant, en dépit de la difficulté de ce texte, pas tellement parce qu'il est difficile à dire, mais il est difficile à incarner.
Oui, incarner, c'est vraiment le mot. Alors, par rapport à la troupe de la Comédie française, c'est la devise, c'est Simul et Singulis. Oui. Donc, je me suis dit Singulis. C'est Singulis.
Allons-y.
Il y aura une fois et il n'y en aura pas d'autres. Par rapport au texte, il y avait à la fois le montage et puis à la fois la traduction. Quand Deborah est arrivée à la Comédie française, donc au mois de mars, elle a trouvé que la traduction n'était pas suffisamment, acérée d'une certaine manière. Donc elle a aimé la revisiter en accord avec Anna Gibson, qui est la traductrice de Colm Tóibín, et la rendre plus âpre, plus dure, en cherchant un français pas forcément grossier, mais qui soit plus radical. Voilà, je crois que c'est un terme qu'elle aime énormément. Donc on a retravaillé pendant une semaine comme ça, pied à pied et au mot à mot. Et ça n'était pas évident parce que moi j'avais déjà appris en amont l'autre texte. Donc il fallait que j'imprime un nouveau texte sur un ancien. Et ça, la mémoire n'en avait pas l'habitude. Ça a été un exercice périlleux. Mais enfin, on y est parvenu. Mais pendant une semaine, c'était assez formidable en même temps de pouvoir, moi j'ai pris ça comme ça. Comme si on retournait la terre, si vous voulez, avant de bâtir avec, finalement. Et donc, se mettre d'accord sur un mot en anglais et en français, Deborah ayant fait beaucoup de progrès en français, et moi étant entourée par deux autres personnes parfaitement bilingues, ça nous amenait finalement à parler du personnage et de la pièce.
C'est vrai que cette Marie, elle est dans ses mots, c'était important, on comprend qu'il n'y ait pas une langue trop littéraire, trop fleurie, parce qu'au fond, c'est une femme d'extraction modeste, on le voit, qui assiste à quelque chose qui l'écrase. Et elle essaye de ne pas être écrasée. Elle essaye d'exister encore. C'est un personnage terriblement charnel aussi, parce que les mots se font... Ils sortent d'un corps qui est habité par la douleur.
Oui.
Et j'imagine que pour une actrice, on ne sort pas de ça indemne. Alors je reviens à la douleur, parce que effectivement, ce sont deux rôles de femmes habitées par une douleur et qui essayent de de redresser la tête, de comment est-ce que vous le vivez, vous, entre ces deux rôles, justement?
Alors, c'est deux solitudes, c'est ce qui m'a frappée. C'est certainement deux femmes extrêmement courageuses. Avec Marie, ce qui m'a intéressée beaucoup, c'était à la fois la maternité et la solitude. Et si on pouvait inventer le mot maternitude, vous voyez, une chose comme ça. Je sais pas si ça correspond à motherhood en anglais, mais c'est un peu ça auquel je pensais. C'est ça que je visais également, c'est-à-dire à la fois le fait d'être mère et en même temps de souffrir d'être mère, de souffrir d'avoir son enfant mort, de l'avoir vu martyrisé, de l'avoir aussi abandonné. Ce qui m'a plu également aussi, c'était l'approche de l'œuvre de Colbin, qui a écrit plusieurs livres sur le thème mère-fils et sur cet impossible amour, où là, dans le testament de Marie, le fils abandonne la mère et ensuite c'est la mère qui l'abandonnera. Mais d'aller jusqu'au bout de cette relation d'amour total, finalement. C'est ça qui m'a paru intéressant. Par rapport à la douleur, moi j'étais partie, dans la douleur, je suis partie sur une approche aussi très historique et très concrète. Là, j'étais partie aussi dans la Bible, les évangiles, vous voyez, l'histoire de l'art, toute la peinture occidentale et tout ça. Déborah m'a dit pas du tout, pas du tout. Moi, je veux quelque chose d'extrêmement contemporain, moderne, qui se passe de nos jours, là-bas, en Syrie ou ailleurs. Et donc se défaire de tout ce qu'on pouvait avoir comme idée préconçue. Marie, moi, c'est un personnage que j'ai connu toute petite, ayant reçu une éducation catholique religieuse très, comment on peut dire, très musclée. Donc c'est probablement une des premières femmes que j'ai connues et que j'ai aimée beaucoup. C'est une grande icône universelle. Ce qui m'a bouleversée, c'est son silence, en fait. C'est son silence et tout ce qu'on projette sur elle. C'est-à-dire, évidemment, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, et puis tout ce que la chrétienté a pu lui faire dire ou lui faire vivre, sans jamais la prendre en compte, finalement.
D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant pour l'écrivain, pour Colm Tóibín, c'est que dans le silence, il y a un espace pour l'écrivain, pour l'écriture, il y a un espace pour la fiction, il y a un espace pour mettre des mots là où Marie se tait, et il y a dans ces mots, alors on le disait, beaucoup de douleur évidemment, Dominique Blanc, mais il y a aussi, et c'est ce qui nous la rend si proche, il y a un solide bon sens, il y a de la révolte, et même un certain humour.
J'aurais dû faire plus attention du temps où mon fils vivait encore avec moi, aux individus qu'il ramenait à la maison et aux sujets qui étaient abordés à ma table. Ce n'était pas la timidité ni la réserve qui me retenait dans la cuisine quand ils étaient là. C'était l'ennui. Quelque chose dans le sérieux de ces jeunes gens me remettait. Cette impression tenace qu'il leur manquait à tous quelque chose me donnait envie de disparaître. Et il parlait de l'avenir. Un temps futur. Tout serait différent. Tout serait mieux. Au début, en général, ils étaient silencieux. Puis ils élevaient la voix. Se mettaient à parler tous en même temps. Alors mon fils imposait le silence. S'adressait à eux comme s'il s'adressait à une foule. Et cette voix toute fausse, artificielle, je ne supportais pas de l'entendre. Après leur départ, seul avec moi, il était plus détendu, plus doux, et il m'autorisait à l'aimer.
Dominique Blanc, c'est vrai que cette Marie, alors, elle va sans doute un peu irriter les croyants, parce qu'elle est bien éloignée de cette image de mère de Dieu. D'ailleurs, au début du spectacle, vous êtes sur la scène dans une châsse dorée, habillée en Vierge Marie. Cette Marie-là, c'est pas du tout la Vierge Marie. C'est une mère à qui il arrive une histoire incroyable, insupportable, et elle essaye d'exister, on l'entend bien là. C'est vraiment une autre femme que celle des évangiles. Il y a eu, il n'y a pas eu, j'imagine, de réaction, de protestation.
Non, aucune. J'étais un peu étonnée, mais non, aucune. Il y a des salles qui parfois rient beaucoup, des salles qui rient beaucoup moins, mais d'une façon générale, il y a beaucoup d'écoute par rapport à ce texte et puis à cette tension qui démarre dès le début, en fait.
Et vous-même, comment est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que pour vous, ce personnage est un très beau personnage de théâtre?
Ah oui, 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 je le crois et je le défends, oui, oui. C'est une... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est un grand personnage, c'est une grande figure de mère, voilà. De mère majuscule, de mère minuscule, mais de femme. Certainement. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a embarqué, si vous voulez, dans l'aventure, c'est cet amour du féminin. Et puis, sans dire qu'elle est une héroïne féministe, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y a dans le féminin du courage et de la beauté. Et je pense que dans ce personnage, il y a du romanesque aussi, il y a de la grandeur. Et puis, il y a ce qui fait tout l'être humain, c'est-à-dire aussi la lâcheté, le manque de courage, le fait que quand elle se trouve en danger de vie ou de mort, entre les deux, on sait qui elle va choisir. Et c'était ça qui me plaisait aussi beaucoup, le fait que on n'est que des êtres humains, au fond. Aussi.
Alors vous l'avez dit là, Dominique Blanc, effectivement, on ne va pas employer le mot de féminisme, mais c'est vrai qu'elle a une façon, quand elle décrit les disciples de son fils, de façon assez cruelle, bien vue, elle dit cette bande de désaxés qui étaient des jeunes gens qui n'étaient pas capables de regarder une femme dans les yeux. Mm-hmm. Ça c'est très intéressant, et c'est intéressant de le replacer dans l'œuvre de Com Toibin d'ailleurs, qui est un écrivain, je le redis, irlandais, catholique, élevé dans la tradition, et qui écrit des romans qui, eux, sont des romans féministes, des romans d'émancipation des femmes. Et au fond, ce personnage de Marie, dans l'œuvre de Com Toibin, il ressemble beaucoup à ses héroïnes, à celles de Brooklyn, à ces femmes qui se sacrifient sur la côte irlandaise et puis qui, à un moment, poussent leurs filles vers la liberté.
Oui, c'est vrai. Je pense qu'elle doit être aussi probablement très inspirée de sa propre mère à lui. Parce que le roman qui est sorti l'année dernière, que je n'ai pas encore lu, Nora Webster, est l'histoire de sa propre mère qui a élevé toute seule quatre garçons. Donc on imagine dans l'Irlande du passé. Et c'est vrai qu'il y a une dose de courage phénoménale, quoi. À la fois de courage, de force, et puis toujours cette solitude et de devoir aller de l'avant et d'avancer. Dans le texte et dans le livre même du Testament de Marie, on sent davantage que c'est une fin de vie aussi. On sent davantage l'approche de la mort, et puis quelqu'un qui veut, d'une espèce de manière, se réconcilier avec elle-même. Déborah a fait une fin qui est presque plus optimiste que ne l'est le livre.
Oui, parce que à ce moment-là, à Éphèse, cette Marie, décrite par Com Toibin et que vous interprétez, Dominique Blanc, elle est prisonnière gentiment, si on peut dire, des disciples qui sont en train d'écrire la saga, j'allais dire, qui sont en train d'écrire la doxa catholique. Et elle fait preuve, cette Marie, d'un très grand scepticisme. Elle assiste aux noces de Cana, mais elle dit « on me dit que l'eau a été changée en vin ». Elle dit qu'elle ne l'a pas vue. De même qu'il y a une description très étonnante, alors là c'est l'art du romancier aussi, de la résurrection de Lazare.
Oui.
Parce que ce Lazare, il sort de la tombe, mais est-il réellement vivant?
Et comment était-il mort? On est bien d'accord, c'est... c'est une chose qui ne s'est produite qu'une seule fois. Voilà. Et ce qui était intéressant pour Déborah, c'était de raconter tout ça sans jouer les personnages, mais en les évoquant tout de même. Donc il faut les dessiner, il faut les tracer, et ce Lazare, est-il mort vivant? Est-il vivant mort? On ne sait plus à la fin. On se dit simplement qu'il n'a qu'une envie, c'est de retourner à l'obscurité, en tout cas certainement.
Il était enterré depuis 4 jours, quand mon fils et ses compagnons sont arrivés à Cana avec leur discours mirobolant où il n'était question que de miracle et de pouvoir. On aurait dit une nuée de sauterelles écumant tout le pays en quête de détresse et de douleur. La mort mort a besoin de temps et de silence. En apprenant que la meute hurlante était arrivée avec son lot de vin, de fous et de malgracieux, Marthe est sortie dans les rues à la recherche de mon fils et elle lui a annoncé la mort de Lazare. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Aujourd'hui encore, alors qu'il est en terre depuis 4 jours, je sais que tu as le pouvoir de le faire revenir. Alors mon fils a dit, il se lèvera avec le reste de l'humanité quand le temps l'aura plus court et que la mer sera devenue semblable à du cristal. Non, dit-elle, non! Tu as le pouvoir de le faire revenir maintenant! Sa prière était telle qu'elle a résonné comme un défi. Marthe est allée trouver sa sœur, Marthe, qui à son tour s'est présentée devant mon fils et lui a affirmé qu'il avait ce pouvoir. Devant ses larmes, il a pleuré lui aussi, car il avait connu Lazare toute sa vie et l'avait aimé comme nous tous. Il a accompagné Marie jusqu'à la tombe. Un murmure a parcouru la foule qui les suivait. Certains ont crié que s'il était capable de guérir les malades et de rendre la vue aux aveugles, alors il pouvait ressusciter les morts. Il est resté silencieux un long moment. Puis, dans un murmure, il a ordonné qu'on ouvre la tombe. Il m'a fait l'effet d'un inconnu pompeux et solennel, j'ai compris que je devais lui parler très vite avant que les autres ne le rejoignent. Je l'ai serré dans mes bras. Tu es en grand danger. On te surveille. Quand je quitterai cette table, tu attendras un peu et puis tu dois me suivre. Tu dois partir et tu dois partir seul. À peine avais-je achevé ma phrase qu'il s'est éloigné. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Puis il l'a dit une deuxième fois, afin que tous l'entendent. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Je suis ta mère. Ai-je dit ?
Dominique Blanc, effectivement, le cœur de ce texte, c'est au fond l'histoire d'une mère dépossédée de son fils. D'abord par la volonté de son fils, on l'entend, qui la repousse, il est investi de sa mission. Puis ensuite, elle va être dépossédée de son histoire par les disciples de son fils. Au fond, c'est l'histoire de cette déchirure terrible entre une mère et un fils. J'ai lu que Deborah Warner rapprochait ce propos de l'actualité d'aujourd'hui, de ces mères qui perdent des enfants, qui partent faire le djihad à l'autre bout du monde. Ça vous semble pertinent comme rapprochement ?
Ah, complètement. Je pense que ce sont des choses qui arrivent effectivement de nos jours. Des jeunes, à la fois des garçons et des filles, attirés tout d'un coup par une espèce d'idéal et qui donc vont partir comme ça, tête baissée, je dirais, foncer dans l'inconnu. Par rapport aux mères, c'est une panique totale, c'est pas un deuil, mais c'est une interrogation. On se dit, où est-ce qu'on a failli? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce départ si soudain, si inattendu? Et ça arrive. En France, je pense que ça arrive dans d'autres pays d'Europe aussi. Cette envie, tout d'un coup, de partir pour le djihad.
Là, on vous entend dans cet extrait, qui est d'ailleurs, pour une fois, qui colle à peu près aux écritures.
Oui.
Puisque Colm Tóibín a repris cette scène des noces de Cana, où la Vierge Marie est repoussée par son fils, qui lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Et en fait, on entend dans votre voix, et c'est ça qui est intéressant quand on entend que le texte et qu'on n'a pas l'image, si je puis dire, on entend la voix qui change d'intonation. Tout au long de ce texte, qui dure 1h20 à peu près en scène, votre voix change selon que c'est la voix de la mère, la voix de la mère exaspérée, de la mère douloureuse, de l'icône qu'elle est en train de devenir, ou quand elle raconte les scènes avec son fils. Ça a été un travail, j'imagine, compliqué, au millimètre près, comme un travail d'horlogerie.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai mis longtemps à comprendre que c'est une personne qui est remplie d'humains, avec un S, vous voyez. Et Déborah, dans sa façon de travailler, a une approche très très particulière. J'emploierai pas le mot de disciple, mais je pense qu'elle a beaucoup aimé longtemps le travail de Peter Brook. Donc ses répétitions démarrent par des jeux. C'est tout à fait étonnant. Elle mêle l'artistique et le technique et on se met à faire des jeux, à improviser. Mais c'est pas des jeux où on est passif, hein. On est très, très engagé. Et les premières répétitions, je pense qu'on joue, entre guillemets, la moitié du temps. C'est une façon de se chauffer, d'être disponible à l'autre, qu'il soit technicien ou directeur de la maison, peu importe, ou directeur technique. Et c'est assez enthousiasmant parce qu'on y retrouve beaucoup de l'enfance à la condition de s'y abandonner complètement. Alors moi, je m'y suis abandonnée de façon, sans frein.
Mais quelle sorte de jeu? Parce qu'on a du mal à imaginer le début d'une répétition.
Il faudrait que j'aurais dû les noter. Comment est-ce que je peux dire? Alors, il y a des jeux tout simples qui consistent à avoir une personne qui avance, l'autre qui recule. Et par exemple, si on dit oui à une question, on doit avancer. Si on dit non à une question, on doit reculer. Vous voyez, des choses comme ça. En fait, je le raconte très mal. Ce sont des jeux où ce qui est sollicité, c'est l'extrême concentration et l'attention à l'autre. C'est surtout ça qui est important au niveau du résultat. Bon, pour les jeux, je vais me...
Et sur la voix, est-ce qu'elle vous fait du voix, travail de modulation?
Alors elle, quand elle n'est pas contente, elle vous le dit tout simplement. Et vous êtes un peu entre ses mains comme une espèce de pâte à jouer ou de pâte à modeler. Et on va modeler ensemble la figure de Jésus, par exemple. Ça ira ou ça n'ira pas. Si ça ne va pas, elle vous le dira tout de suite. Puis il faudra continuer de retravailler là-dessus. Donc faut trouver des distinctions entre, par exemple, les personnages de Marthe, de Myriam, de Marie. Tout ça commence par des M. Et il faut que chaque personnage soit distinct. Il faut pas non plus que ça devienne des compositions, parce qu'à ce moment-là, on est plutôt proche du, je sais pas, du café-théâtre ou du cabaret. Il faut juste que ce soit suggéré, et en même temps, c'est l'histoire d'une femme qui est seule et qui se liloque aussi.
Qui est devenue seule, parce qu'on se rend compte, vous venez de parler de ces femmes qui l'accompagnaient jusque-là, dont elle était très proche,
oui.
Myriam, Madeleine, Marie, et on se rend compte que, peu à peu, l'histoire de son fils crée autour d'elle un silence, et elle est seule au milieu, les gens lui tournent le dos carrément.
Complètement. À partir du moment où la crucifixion est décidée, tout le monde lui tourne le dos, elle se retrouve seule, enfermée dans cet espace où, dans l'idée de Deborah Warner, elle se liloque, c'est-à-dire qu'elle tourne complètement en boucle, jusqu'au jour où elle arrive à s'avouer elle-même sa propre vérité, et là, c'est là qu'elle devient totalement humaine.
Alors, au milieu de ce spectacle, justement, il y a évidemment ce morceau de bravoure, si on peut dire, qui est le récit que fait Marie, alors là, vraiment, à sa première personne à elle, le récit de la crucifixion, où on la traîne. Au départ, elle ne sait pas ce qu'elle va voir, puis elle se rend compte qu'elle va assister à la mort de son fils. Et là, il y a un très long récit de Marie qui est très prenant, où elle décrit la crucifixion d'une manière terrible. Mmh. Et puis, il y a aussi ce qui rassemble à ce moment-là tout le monde, c'est le fait que lorsqu'on veut détourner ses yeux d'un spectacle insupportable, elle s'attache à des tas de détails, et dont ce fameux récit qui revient depuis le début, qui est l'histoire de l'oiseleur qui nourrit son vautour ou son aigle avec des lapins vivants. Mmh. Et on a l'impression, à l'entendre redit quelquefois, elle y fait allusion depuis le début du spectacle jusqu'à la fin, que c'est quelque chose qui pour elle est significatif. C'est comme l'image d'un dieu vengeur, au fond.
Oui, et puis il y a une espèce de sadisme et en même temps de douceur chez cette oiseleur qui va la soulager, elle, beaucoup, véritablement. Et puis, il y a les hommes qui deviennent rapaces et vautours à leur tour, quoi. C'est ça aussi, cette cruauté-là. Et c'est un passage très, très fort, mais qui raconte énormément. Et c'est une chose qu'elle va regarder, la torture que subit son fils, et qui sera quelque chose qui va la soulager par moments, en tout cas de l'horreur, et va l'aider à détourner la tête.
Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, Dominique Blanc, ce garçon, ce fils qui l'a repoussé, à son tour, c'est elle qui va l'abandonner, puisque la vérité de Marie, c'est qu'au bout d'un moment, elle s'est enfuie.
Je dois dire les mots, oui, au cours des années qui ont suivi. Je me suis raconté que j'avais fait ça pour Marie. C'était moi qui l'avais entraînée là. Si elle devait finir étranglée, ce serait ma faute. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vision de la mort de Marie qui m'a poussée à courir vers notre gardien, à lui dire qu'il avait raison, qu'il fallait partir tout de suite à la faveur de la nuit pour trouver un endroit sûr. Je dois dire les mots. Je dois laisser sortir les mots. Alors que son cœur et sa chair étaient mon cœur et ma chair. Alors que j'étais sa mère. Alors que j'étais son unique protection dans le monde. Alors que je suis encore sa mère. Pourtant maintenant, s'il le fallait, j'étais prête à le laisser mourir tout tous seuls. Et c'est ce que j'ai fait.
Dominique Blanc, là, c'est effectivement l'aveu qu'elle a à faire, Marie, parce que on a beau ensuite dire que c'était la mère de Dieu, elle n'est qu'une femme qui ne supporte plus de voir ce qu'on l'oblige à voir.
Absolument. Et puis, une femme qui est menacée dans le contexte des Romains, des prêtres, des pharisiens, donc qui va probablement être éliminée dans les heures qui suivent la mort de son fils. Et elle choisit la vie, mais elle choisit aussi d'abandonner son enfant.
Mais en choisissant la vie, elle choisit aussi de se remettre entre les mains de ceux qui sont en train d'écrire l'histoire. Oui. Là, on la voit vieillissante, elle est en fin de vie, et elle sait qu'ils sont en train d'écrire alors ce fameux récit qui doit changer la face du monde. Et jusqu'au dernier moment, elle n'abandonnera pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas Marie se résoudre, à baisser la tête, à accepter, à dire « oui, votre mémoire est meilleure que la mienne, oui, votre récit est le vrai, le mien n'est pas le bon ». Jusqu'au bout, elle se bat.
Ah oui, oui,
et
c'est
une révolté. Elle a sa vérité à elle.
Absolument. C'est ce bâton de combattante qui était formidable et qui est formidable à interpréter. Cette espèce de niaque qui fait qu'elle lâchera jamais, elle renoncera jamais non plus. Elle s'accepte enfin elle-même, ce qui est un grand pas pour elle-même, mais par rapport aux autres, elle ne cédera en rien.
From Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, and a little cafe just round the bend. Oh! Dry wind blows right through me. Your baby is crying and I can't sleep. We all know a change is coming. Oh, coming closer, sweet release. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. And a little cafe just around the bend. A hot dry wind blows right through me. Your baby's crying, I can't sleep. Oh, but we are known. No change is coming. Coming closer, sweet release, sweet release, sweet.
L'humeur est vagabonde sur France Inter.
Dominique Blanc, Deborah Warner et vous, c'est une histoire qui remonte à 1997, donc c'était Maison de poupée d'Ibsen au Théâtre de l'Odéon. Le Théâtre de l'Odéon avant sa réfection, tout ça nous remène à Mathusalem. C'est une metteur en scène très exigeante, on le sait. En plus, elle parle anglais, donc vous aviez des gens pour vous comprendre. Mais en même temps, c'est un travail compliqué de le faire avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue et qui vous demande autant de présence, de répétition. Alors, on parlait tout à l'heure des jeux d'avant, mais ensuite, d'en rentrer dans le travail...
Oui.
Ce sont des journées entières.
Hein. Oui, elle voulait 5 heures de répétition et elle en aurait voulu davantage. Et c'est quelqu'un qui est un peu comme Patrice Chéreau d'ailleurs, aime beaucoup que l'on propose énormément. Il ne s'agit pas de rester passif ou d'attendre qu'on vous donne la béquille. Il faut vraiment proposer tout le temps, en permanence. On sort de là, on est complètement, au bout de 5 heures, on est complètement lessivé. Parce qu'il y a la concentration qui consiste à écouter l'anglais, avec des nuances que je ne pige pas forcément toutes. Puis après, il faut se lancer dans la concrétisation du jeu et du personnage. Donc c'est un engagement à la fois physique, psychique, psychologique, qui fait qu'au bout de 5 heures, on sort de là, on est complètement KO.
Comment sortant d'une essoreuse, quoi.
Oui, exactement.
Mais est-ce que vous avez eu, au bout d'un moment, la même conception de cette Marie? Parce qu'il fallait la dessiner, et il fallait que... Et pour vous, pour l'incarner, ça veut dire qu'il faut que vous soyez en totale adéquation avec cette Marie.
Oui, oui.
Vous avez fini par vous retrouver sur une femme qui correspondait à ce que vous pensiez, vous, Dominique Blanc ?
Oui, oui, tout à fait. Et puis, Déborah a une formule que je trouve pas mal du tout. C'est quand on commence à s'approcher de quelque chose qui ressemblerait éventuellement à ce qu'elle veut, elle vous dit, oui, c'est comme ça. Enfin, c'est pas loin. En tout cas, c'est dans ce territoire-là qu'il va falloir que tu cherches. Donc, voilà. Tout en ayant énormément aussi d'autonomie, de proposition et d'indépendance, parce que bon... faut que ça se bâtisse véritablement à deux, sinon ça ne fonctionne pas.
Alors justement, on va entendre ce que Deborah Warner a pensé de ce travail avec vous. Dominique Blanc, c'est au micro de Perrine Malinge, on l'écoute.
My name is Deborah Warner. We're in this grand salle of the Odeon Theatre.
Et nous descendons vers la salle.
Allons-y.
Donc là, on fait le chemin que les spectateurs sont invités à prendre chaque soir, s'ils ont envie de visiter la scène avant le spectacle. Et voilà, nous arrivons sur le plateau, et pour le moment, il y a un personnage très important qui est absent. Je ne parle pas de l'actrice Dominique Blanc, mais de son partenaire de jeu, un vautour, un jeune et magnifique vautour qui répond au nom terrible de Scarface.
En front de nous est...
Là, sous nos yeux, il y a comme un plateau posé sur le plateau du théâtre. C'est une plaque en aluminium poli sur laquelle sont disposés des accessoires que Dominique utilise au fil du spectacle. Là, c'est le coin le plus intéressant, tout à l'avant-scène. Il y a une échelle couchée sur le sol et entre chaque barreau sont disposés une éponge, un flacon de vinaigre, une couronne d'épines fabriquée avec des fils barbelés, un marteau, un couteau, des clous et une lance. Je pense que vos auditeurs saisiront le sens de ces objets. C'est Dominique qui a fait cette installation. Moi, je n'avais pas du tout l'intention de disposer les objets à l'intérieur de l'échelle comme elle l'a fait. Colm Tóibín nous a bien sûr donné beaucoup d'indications sur le texte, dans la manière dont Marie décrit très précisément tous ces détails qu'on connaît. Chaque clou, comme elle le dit, était plus grand que ma main. Il s'agissait juste de trouver une manière d'assembler les objets de la crucifixion. C'est très différent de ce que j'avais fait à New York et à Londres, mais je tenais à ce que tous ces objets soient là. Dominique est une actrice très enthousiaste, facile à diriger, et on a fait plein d'exercices intéressants ensemble. Un jour, on lui avait bandé les yeux. Tous les objets liés à la crucifixion étaient dispatchés dans l'espace sur ce sol en métal. Elle les découvrait un à un par le toucher. C'était assez extraordinaire. Mais vous savez, il y a aussi une part de paysage imaginaire. Tous ces trucs qui font partie de nos fantasmes, Freud et Jung l'ont dit, ça fait partie de nos rêves. Même s'ils font partie de notre univers domestique, on ne peut plus regarder un marteau, des barbelés, des clous et des éponges comme des objets neutres, des objets du quotidien. C'est vrai que c'est un peu comme une installation dans un musée, comme une invitation à venir voir des objets qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il est très rare d'être invité à monter sur la scène avant un spectacle. Et je crois que cette expérience permet d'ouvrir l'esprit et permet une forme de compassion pour se préparer à recevoir notre histoire de Marie. Je ne suis pas certaine que ce soit très agréable pour Dominique. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien pour le public. Parce que ça crée une forme de connexion assez profonde avec Dominique. Je crois vraiment que ça change radicalement le rapport que le spectateur a avec le spectacle.
Dans le travail avec Dominique Blanc, dans les directions que vous lui avez données, est-ce que la dimension religieuse, symbolique, était présente ou au contraire, c'était uniquement en termes très concrets du rapport d'une mère à son fils ?
Je crois que pour comprendre la religion, pour en avoir une connaissance un peu plus profonde, il faut privilégier une approche humaine et concrète. Comme je le dis tout le temps, c'est une histoire très profane qu'on raconte ici, qui par hasard rencontre la grande, l'énorme histoire chrétienne. Je ne suis pas croyante, mais toutes ces histoires collectives sont les grandes histoires du monde, comme le sont les grandes tragédies grecques, les grandes histoires de l'Église catholique ou la grande histoire de Bouddha. Ce sont toutes des histoires profondément humaines. C'est pour ça qu'elles existent, pour nous aider et nous toucher en tant qu'humains. Et on touche là aussi à l'âme du théâtre, qui est de reprendre toujours les mêmes histoires que nous connaissons tous. Shakespeare n'a jamais écrit de pièce originale. Il a toujours écrit à partir de textes de la mythologie grecque ou de l'histoire anglaise. Et ici, c'est pareil, on est face à une très belle histoire racontée d'une nouvelle manière. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, quelques surprises.
Quel type, quel genre d'actrice il faut pour l'incarner ?
Je viens de parler de textes classiques et donc, selon moi, il faut une actrice classique. Quelqu'un qui a l'envergure de pouvoir traverser l'immensité de l'histoire et de rendre le passé intensément vivant dans le présent. Ces actrices-là peuvent à la fois être pleinement elles-mêmes tout en pouvant donner corps à des histoires d'un autre temps, d'une autre époque. Mais il faut dire que pour ce texte, le défi était aussi dans l'apprentissage. Le style est très littéraire, c'est très singulier. C'est un récit, dit-elle, dit-il. On n'a raconté qu'eux, ils ont dit. Et c'est extrêmement difficile à apprendre. Tant pour Fiona Shaw que pour Dominique Blanc. Ces deux actrices ont dû se battre pour prendre du plaisir avec ce texte. Je crois aussi que tout monologue est un tour de force théâtrale qui nécessite des acteurs avec de l'énergie et des muscles pour s'y atteler. Ce sont de vrais chevaux de course. Et ça ne veut pas du tout pour autant dire qu'il s'agit de déclamer à l'ancienne. Dominique est très loin de ça. Elle a une approche pleine d'intelligence et d'intégrité.
Un bon spectacle.
Merci, merci. Thank you.
Dominique Blanc, Deborah Warner a confié à des journalistes qu'elle était très heureuse de travailler avec vous et elle vous a qualifié de grande actrice classique. Pour quelqu'un qui est à la Comédie Française, ça semble tomber sous le sens, mais grande actrice, d'accord, classique, je ne sais pas.
Mais je suis pas pour.
Non, vous n'êtes pas classique, vous n'êtes pas classique.
Non, parce qu'en fait, je pense que dès le début, quand j'ai choisi ce métier, j'aurais certainement rêvé d'un parcours classique. Et puis, étant refusée par les institutions, il a fallu bâtir sa route et son chemin tout seul. Et j'ai adoré ça, d'ailleurs. Mais ça n'a vraiment pas été classique du tout.
Non, mais c'est vrai que maintenant, faire partie, même si vous êtes encore que pensionnaire de la Comédie Française... en même temps, vous vous sentez bien au cœur de cette troupe. Pour vous qui avez tracé un chemin de solitaire aussi dans le théâtre, là, tout d'un coup, le travail en troupe dans cette maison-là, ça vous convient? Vous vous épanouissez?
Alors, j'y suis très heureuse. Je trouve que ce sont des grands travailleurs. Ils travaillent de façon considérable, on s'en rend pas forcément toujours compte. Mais ils jouent beaucoup, ils répètent aussi énormément. Physiquement, faut être très en forme. Mais j'aime beaucoup le principe qui consiste à être une Agrippine chez Racine et ensuite une courte marquise chez Marivaux. J'aime beaucoup ça. J'aime la qualité des textes qui sont défendus là-bas et j'aime aussi l'excellence des partenaires parce que je pense qu'il y a beaucoup de rigueur.
D'ailleurs, ce Testament de Marie, c'est une collaboration Comédie Française Théâtre de l'Odéon. Donc, ça sera jusqu'au 3 juin au Théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe à Paris. Et puis ensuite, les vacances. Bienvenue, Dominique Blanc. Mais à la rentrée, avec la Comédie Française, il y a des pièces qui vont reprendre, et notamment Britannicus.
Alors voilà, il y a la reprise de Britannicus qui va se faire probablement en juin, juillet, août de l'année prochaine. À la rentrée, il y aura Vania au Vieux Colombier qui va être repris. Au mois de septembre, d'abord dans des théâtres de banlieue tout autour de Paris, puis ensuite au Vieux Colombier. Et ensuite, la reprise de Marivaux. Et puis une création dont j'ignore si je peux en parler avant l'administrateur lui-même ou pas, je ne sais pas.
Enfin... Ne faisons pas de crime de lèse-majesté, parce que quand même, la Comédie Française, il faut respecter. Mais effectivement, si ça se fait, moi je suis dans la confidence et ça sera très bien. Et on se reverra sûrement, Dominique Blanc.
Avec joie.
Merci à vous d'être venu aujourd'hui. Terminez bien ce testament de Marie. Passez de bonnes vacances et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
L'humeur vagabonde, c'est fini pour ce dimanche, mais si vous en êtes d'accord, nous avons rendez-vous dimanche prochain aux environs de 14h. Je recevrai l'écrivain américain David Treuer qui sera à ce moment-là à Saint-Malo, pour Étonnant Voyageur. Très bon dimanche à l'écoute de France Inter, mais surtout restez-y puisque après les informations de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et ses aventuriers.